l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence dans la vallée du Lot, 92.5.
Et direction les studios de Lourdes en attendant. Il est 12h, passé d'une petite minute à la pendule de présence. C'est le Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Dans quelques instants, nous allons parler de Bernard Devers. Peut-être cela vous dit-il quelque chose. Il s'agit d'un prêtre et il est fondateur de l'association Habitat et Humanisme. Il sera au cœur du sujet de la chronique verte de Benoît Guillard. Nous parlerons dans la chronique littéraire de Nicolas d'Argegen en ce vendredi d'un saint qui vient d'être canonisé, vous le savez, et il s'agit de Carlo Acutis. Puis nous partirons loin, nous partirons en Tanzanie, ce sera le sujet de la chronique solidaire de Anne Deslois, elle sera en compagnie de Adeline Tesserinck. Et enfin, l'auteur à découvrir aujourd'hui qui a écrit sur notre belle région, c'est Alain Fournier. Nous serons pour cela aux alentours de 12h55 en compagnie de Catherine Albrecht. Voilà le programme de cette heure que je vous propose de passer ensemble et que je vous propose également de débuter avec le titre des informations de ce vendredi, des titres qui nous sont proposés par Éric Leclerc.
L'État autorise l'implantation d'unités de fabrication de paracétamol sur le site d'Ariane Group à Toulouse. Le préfet de la région Occitanie vient de délivrer à l'entreprise Ipsofen l'autorisation environnementale permettant l'installation et l'exploitation d'une unité de fabrication de paracétamol selon un procédé innovant. Journée de mobilisation des agriculteurs aujourd'hui à l'appel de plusieurs syndicats agricoles. Une mobilisation pour dire non aux incohérences et concurrences déloyales que subissent les producteurs, aux accords commerciaux qui menacent les standards et les filières, au Mercosur où la culture est la variable d'ajustement. Création d'un observatoire de la qualité de l'air sur le plateau de Lannemezan, l'évolution de la zone industrielle de Peyrehitte avec l'installation prévue de nouveaux acteurs économiques a suscité de nombreuses questions des riverains sur les polluants issus de ces nouvelles activités et plus largement sur la qualité de l'air. L'État et les acteurs locaux ont sollicité Atmo Occitanie en tant qu'observatoire indépendant agréé pour surveiller la qualité de l'air.
Merci Éric Leclerc. On vous retrouve aux alentours de 12h30 pour faire un nouveau point sur l'actualité. Dans l'immédiat, comme promis, je vous propose de découvrir le sujet de la chronique verte de Benoît Guillard d'aujourd'hui.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons pour cette semaine à nouveau dans la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, je suis à Lourdes, et plus précisément, je suis donc au Centre Assomption de Lourdes, où j'ai la joie de faire la connaissance et de rencontrer Bernard Devers. Bernard Devers, qui est le fondateur, prêtre bâtisseur, dit-on, entre guillemets, de Habitat et Humanisme. Et donc, chers auditeurs, j'ai la joie de pouvoir échanger quelques mots avec lui et pouvoir vous présenter aussi ce magnifique mouvement qui est Habitat Humaniste. Bonjour Bernard, deux mots de présentation.
Bonjour Benoît, chère auditrice et auditeur, bonjour aussi. Présenter Habitat Humanisme, l'association elle a 40 ans. L'intuition c'est comment loger des personnes en situation de grande fragilité en veillant à ce qu'elles ne rejoignent pas des quartiers fragiles. Au fond, on est tous frères. Cette fraternité, elle doit faire tomber les murs. si elle ne, on n'arrive pas à lézarder précisément ces murs, la fraternité, c'est un mot creux.
Alors, cher Bernard, aujourd'hui, donnez un petit peu la dimension de ce qu'est devenu Habitat Humanisme en termes de logement, en termes de logement en propriété, en termes de logement mis à disposition, en termes de famille accompagnée, simplement pour que nos auditeurs aient vraiment une vision de ce que ça représente aujourd'hui.
Alors, les chiffres parlent, mais en fait, d'emblée, c'est pas du tout une fausse humilité, c'est en fait le constat du drame de notre société, où des milliers et des milliers de personnes sont à la recherche d'un toit. Ce qui a été fait en 40 ans, c'est aujourd'hui à date, c'est 11 000 foyers qui ont un logement. Hier, c'était parfois des personnes qui étaient même dans la rue, etc., qui se retrouvent aujourd'hui dans des logements qu'ils n'espéraient pas. Mais naturellement, par rapport en fait, aux attentes, on voit que c'est dramatiquement insuffisant. Ceci étant, c'est quand même, c'est peut-être une goutte d'eau dans cet océan, en fait, de la misère. Mais en tout cas, cette goutte d'eau, elle a une valeur, parce qu'au sens où, en fait, il y a des choses possibles. Et je trouve que c'est notre démarche, et au nom de notre foi et de notre espérance, nous devons être des acteurs de possibles, des acteurs de nouveaux possibles. Il s'agit de faire du neuf. Habitat Humanisme, c'est aussi un pôle médico-social qui est relativement important puisque c'est en fait c'est 4000 personnes aujourd'hui confrontées au grand âge et au handicap qui ont trouvé une place au sein de cette association. C'est aussi en fait un lien avec des autistes, essentiellement de jeunes autistes. Et c'est aussi un lien avec l'urgence, notamment ces femmes qui sont en fait violentées et qui se retrouvent parfois avec leurs enfants en fait dans la rue. À chaque fois, c'est en fait des situations tellement insupportables que la question qui est la nôtre et qui est aussi la vôtre si, dans cette écoute, c'est de dire mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer et faire changer ? Et la fragilité, au fond, notre société, elle en a peur du fragile, alors qu'elle est là, elle est totalement rampante. Donc il y a un regard à avoir par rapport à cette approche du fragile. Écoutez, Benoît m'interview et je vais prendre de mémoire, en fait, ce mot d'un poète, de Jean-Luc Grasset. La fragilité du monde est si grande que Dieu marche pieds nus pour ne point le briser. Et lorsque je m'aperçois que Dieu est venu, et Dieu vient aussi à partir de chacun d'entre nous, voici que je m'étonne de tant de clarté après son passage. Et bien voilà, le travail que nous avons à faire, c'est précisément un peu de susciter cette clarté, de se dire, mais en fait, mais cette personne que j'ai peut-être pu juger ici et là, et voici que dans cette relation avec elle, je découvre aussi une véritable richesse. Ce monde, il nous faut tenter en fait de faire en sorte de l'évaluer à partir de l'attention portée aux fragiles. Et c'est cette attention qui finalement détermine là où nous en sommes de notre humanité.
Alors effectivement, je crois que Bernard, dans votre message très fort, très profond, autour de ce monde, la question qui se pose à chacun d'entre nous, chrétiens, citoyens, c'est véritablement comment faire pour que le logement des plus fragiles soit perçu comme une responsabilité collective. Et c'est bien là tout l'enjeu. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, Bernard, Habitat Humanisme, aujourd'hui, comment arrivez-vous à investir, à continuer à construire au fur et à mesure, quels sont vos soutiens financiers, comment vous arrivez à trouver justement la ressource pour avancer?
Alors, notre soutien, c'est tous ceux qui, en fait, se disent, à partir un peu d'économie, enfin, un peu d'argent qu'on peut avoir, mais il y a des gens qui ont très peu d'argent et qui aussi participent à notre démarche pour dire, voilà, on va pas mettre cet argent dans des bas de laine, parce qu'on sait que ça n'apporte rien du tout, hein, et qu'on voit qu'aujourd'hui, en fait, il y a cette fameuse épargne de précaution, hein, qui est absolument terrible. En fait, finalement, elle est thésaurisée, et en fait, elle ne permet pas de lever, de se relever. Et donc, c'est à partir d'une foncière, alors, les mots techniques, je vais tenter de les épargner, c'est-à-dire, en fait, finalement, c'est un peu une copropriété, où les personnes disent, ben voilà, ben moi je peux mettre 1000 euros, 500 euros, moins parfois, etc. Et puis ça, cet argent-là, il est investi uniquement dans la pierre, uniquement dans la pierre. Et donc, à partir de... Ça nous a permis de construire des milliers et des milliers et des milliers de mètres carrés, en fait, depuis 140 ans. Et ce sont ces logements qui se dessinent, qui se réalisent, et qui permettent de pouvoir accueillir ceux qui ne pensaient jamais pouvoir être logés. Et sans habitat, il n'y a pas d'humanité, bien entendu. Sans habitat, il n'y a pas de dignité possible. Et donc c'est une invitation pour chacun de se dire, mais finalement, là où je suis, ou là où j'en suis, qu'est-ce que je pourrais faire pour participer finalement à cet engagement ? Et il n'y a pas de participation modeste. Il y a une participation, cet argent il est investi, hein, c'est pas un don. Hein. Et donc en fait, Habitat Humaniste n'est pas très riche, elle n'a pas de moyens financiers qui lui sont propres. En fait, elle est portée par, on m'a dit au début, on m'a dit, mais c'est une utopie votre histoire, c'est pas possible en fait, etc. Eh bien, c'est une utopie concrète, et cette utopie, elle se révèle en fait une grande sagesse. Et la sagesse, c'est précisément toujours un esprit de résistance, de dire qu'est-ce que je peux faire en fait pour que en fait cette société aille mieux. Comment elle peut, la fraternité, ça ne reste pas un mot, mais ça reste précisément un engagement qui conduit à construire et à se construire autrement.
Donc on va dire que c'est un peu un fonds d'épargne populaire qui oui, nourrit les oui, projets, tout simplement, hein, simplement. Et que nos éditeurs qui seraient soudain appelés par votre discours pourraient effectivement abonder à ce fonds d'épargne populaire. Vous êtes sur les Hautes-Pyrénées, vous êtes sur le diocèse de Tarbes-Lourdes, cher Bernard. Pas tout à fait par hasard, parce que je crois qu'il y a un événement qui va se passer d'ici quelques heures à Tarbes.
Alors justement, à Tarbes, on a réalisé à la fois en plein centre-ville une maison intergénérationnelle et aussi une pension de famille pour des personnes qui étaient en très grande difficulté et qui trouvent à partir en fait de ce lieu un lien. Voilà. Je crois qu'il faut, sans lieu, il n'y a rien qui peut exister. Hein. Et donc, pour faire exister, il faut bâtir. Et ça, c'est bâtir, bien sûr, avec de l'argent, c'est bâtir naturellement avec tous les acteurs de l'acte de construction, mais c'est aussi bâtir parce qu'il y a des hommes et des femmes qui disent « mais moi je veux donner un peu de mon temps pour pouvoir rencontrer ». Au fond, là aussi, construire des liens. Et quand on construit des liens ainsi, en fait finalement, on n'est plus dans l'ordre du jugement, on est dans l'ordre parfois de l'étonnement, mais d'étonnement en étonnement, un jour on découvre aussi qu'il y a quelques raisons de s'émerveiller.
Alors, cher Bernard, ça va être un peu la dernière question. Hein. Nous sommes à Lourdes, où, bien évidemment, devant cette grotte de Lourdes, beaucoup de pèlerins cabossés, brisés, viennent implorer Marie. Et puis, donc, j'en profite en disant, ben voilà, un père bâtisseur comme Bernard, quel message de joie et d'espérance il peut nous donner aujourd'hui ?
Des messages de joie, c'est en fait... Ce sont ces personnes qui ont, vous savez, quand elles ont reçu les clés pour entrer dans ce logement. C'est pas simplement un logement qu'elles ont trouvé. D'abord, elles ont découvert qu'en fait, on s'intéressait à elles. Que c'est un horizon qui s'ouvre. Hein. Et cette espérance, c'est que, j'aime bien ce mot de Bernanos, vous me le permettrez, l'espérance, c'est le désespoir qui est surmonté. Il nous appartient les uns et les autres, précisément, de nous élever et de faire relever, en fait, à partir de projets qui permettent à ce monde de se dire, en fait, ce monde, il est bien meilleur que nous le pensons. Et en tout cas, nous allons veiller à le rendre possible. Et à ce possible, nous sommes les uns et les autres appelés.
Magnifique conclusion pour cette interview. Merci, cher Bernard, de nous avoir donné un petit peu de votre temps et au plaisir de vous retrouver à Lourdes. Au revoir.
La chronique verte, Benoît Guillard.
chronique que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur le site internet de Radio Présence. Dans quelques instants, nous allons retrouver Nicolas Dorgegène qui va nous parler de Carlo Acutis. À tout de suite.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime. À vos genoux, vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges, et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie.
Bien sûr, vous l'aurez reconnu, excellent appétit. Si vous êtes à table, nous sommes en plein cœur du Présence Midi. Sur Présence, nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
Présence à Cahors, 92.5.
Une proposition de lecture nous est faite toutes les semaines. Cette semaine, c'est avec Nicolas Dorgegène, le responsable des archives et patrimoine du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Il a bouquiné pour nous un livre. De quoi s'agit-il ? Le voici le sujet.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Le secret de mon fils, Carlo Acutis, écrit par Antonia Salzano Acutis, paru aux éditions Artege en 2022. Antonia Salzano Acutis vient de vivre un événement que très peu de mères ont pu vivre. C'est la canonisation de son propre enfant, Carlo Acutis, le dimanche 7 septembre 2025 par Léon XIV. Je crois que la dernière mère à avoir vécu cet événement doit être la mère de Sainte Maria Goretti en 1950. Alors avant tout, il faut préciser que le livre n'est pas un livre de conseils qui pourrait s'appeler « Comment sanctifier son enfant ». Antonia Acutis n'est pas une conseillère en éducation, elle ne se pose pas en spécialiste. C'est-à-dire qu'à la fin de la lecture de ce livre, nos enfants ne seront pas transformés en saints. Si c'est cela que nous attendons de cette lecture, alors nous serons très déçus. Antonia Acutis nous offre un simple témoignage de ce qu'elle a vécu auprès de son fils. Elle nous raconte simplement la vie ordinaire d'un jeune homme de son temps, comment par sa vie simple il est arrivé à la sainteté. Nous découvrons également comment un jeune homme d'une famille classique a pu également faire rayonner sa foi autour de lui. Dans une famille qui n'était pas pratiquante, il a réussi par son exemple, par son chemin simple, à entraîner avec lui et sa famille et son entourage. Car Carlo était en chemin sur notre terre, en chemin vers la sainteté. Comme l'écrit Antonia Acutis, de nombreuses photos de Carlo le montrent avec un sac à dos sur les épaules. À mon avis, ce n'est pas un hasard. Carlo vivait en pèlerin, toujours en route vers une destination lointaine, tout en gardant vivantes ses racines qui le reliaient au passé et le projetaient dans l'avenir. Le vrai pèlerin doit être plongé dans une insatisfaction qui ne provient ni de l'amertume, ni de la déception, mais de l'espoir, de l'aspiration à cet infini qui justifie son départ. Carlo était un parfait pèlerin de l'infini, toujours à la recherche de l'absolu. Pour se lancer dans cette quête, il répétait qu'il était nécessaire de bien se connaître afin de pouvoir accomplir cet exode loin de soi qui permet d'aller plus vite vers Dieu et les autres. Antonia Acutis nous livre dans cet ouvrage les souvenirs qu'elle a de son fils. Ce n'est pas une biographie linéaire, elle nous livre simplement des brides de souvenirs organisées selon des thématiques qu'elle a pu créer en se souvenant de son fils. Elle explique elle-même « Les souvenirs de Carlo tourbillonnent dans mon esprit sans suivre d'ordre chronologique. Je les vois descendre puis remonter comme les mouettes qui plongent dans la mer puis remontent pour s'élever dans le ciel. Ils me procurent des sentiments mitigés. Il n'est pas facile pour une mère de se souvenir de son fils qui n'est plus. Ce qui me réconforte, c'est la certitude de sa sainteté, le fait que sa vie n'a pas été vaine. Parfois, les souvenirs me viennent soudain, sans que je le veuille. Ils sont pareils aux vagues qui me balaient. À d'autres moments, cependant, leur clapotis m'inonde de douceur et m'aide à me concentrer sur ce qui a été, mon passé et celui de mon fils. Je revois Carlo enfant, puis adolescent, et tout semble se rassembler en une seule image, plus grande que moi, et qui possède sa signification propre. » Par contre, Antonia ne cache pas à quel point la perte de son fils a été douloureuse. Une leucémie foudroyante l'a emporté en 15 jours, le 12 octobre 2006, à l'âge de 15 ans. Mais il est un support pour elle au ciel. Elle écrit elle-même « Quand Carlo est mort, je pensais que, avec le temps, le poids de la perte serait amoindri. Ce n'est pas le cas. Chaque moment de la vie de mon fils me revient. Et parfois, l'onde de choc est difficile à supporter. Cependant, j'ai appris à me défendre. Quand le souvenir me cause trop de douleur, je ne le combats pas, je le laisse m'envahir. Je ne m'y oppose pas, non plus que je ne m'en défends. Alors, petit à petit, ça passe et la paix revient. La douleur exprime bien le vide que Carlo a laissé dans ma vie. En même temps, elle me pousse à le chercher au ciel, dans la prière, afin d'être capable de retourner à mon quotidien sans faillir, réconforté par le fait qu'il distribue maintenant les grâces à tant de personnes, comme il le faisait lorsqu'il était encore parmi nous, et qu'il prenait soin des nécessiteux, comme des pauvres de cœur qu'il croisait sur son chemin. Grâce à l'Eucharistie, sa vie a été transformée en une autoroute vers le ciel, comme il aimait à le dire. Cette autoroute dont parle Antonia Acutis, ce chemin direct et rapide vers le ciel, ce sont les grâces qu'il accorde continuellement à ceux qui le prient. Carlo était catéchiste. Il a laissé quelques conseils aux enfants qu'il enseignait, des conseils pour aller vers le ciel, justement, des conseils pour marcher dans les voies de la sainteté. Il disait aux enfants, « Je veux vous donner quelques-uns de mes secrets très spéciaux qui vous aideront à atteindre rapidement le but de la sainteté. N'oubliez jamais que vous pouvez, vous aussi, devenir un saint. Vous devez tout d'abord le désirer de tout votre cœur. Et si vous ne le désirez pas encore, vous devez le demander avec insistance au Seigneur. Ces conseils sont simples. Premièrement, essayez d'aller à la messe tous les jours et de recevoir la Sainte Communion. Deuxièmement, si vous le pouvez, faites quelques moments d'adoration eucharistique devant le tabernacle où Jésus est réellement présent et vous verrez comme votre niveau de sainteté augmentera. Troisièmement, n'oubliez pas de réciter le Saint Rosaire tous les jours. Quatre, lisez chaque jour un passage de l'Écriture sainte pour vous-même. 5. Si vous le pouvez, confessez-vous chaque semaine, même des péchés véniels. 6. Prenez souvent des résolutions et adressez des requêtes au Seigneur et à la Vierge Marie pour venir en aide aux autres. 7. Demandez l'aide de votre ange gardien qui doit devenir votre meilleur ami. Pour Carlo, la sanctification d'une âme est d'abord et avant tout l'œuvre de Dieu. Il détermine selon sa volonté les aides qu'il dispensera à chacun d'entre nous. Or, dans l'usage que nous faisons de ces aides, nous en avons une liberté totale. Nous pouvons en user, en abuser, en tirer profit à un degré plus ou moins grand. Nous en sommes les premiers responsables. Carlo affirmait que Dieu donne à tous les hommes d'innombrables occasions de faire le bien. L'existence elle-même, par ses souffrances, mais aussi ses joies, contribue à notre sanctification. Et le Seigneur accordera bien d'autres grâces en fonction de la générosité et de la gratitude avec lesquelles nous les accueillerons et les ferons fructifier. De notre coopération à ces grâces intérieures dépendra dans une large mesure notre progrès spirituel. Ces dons de Dieu, cependant, exigent toujours un effort de notre part, comme par exemple remplir les devoirs de notre état, prier, se mortifier, se sacrifier pour les autres. Certains feront des efforts généreux, d'autres médiocres, d'autres encore minimes. On connaît cette phrase de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, « Une épingle ramassée par terre avec amour suffit à sauver une âme. Jésus ne regarde pas tant la grandeur des actes, ni même leurs difficultés, que l'amour qui préside à ces actes. » Carlo nous montre ainsi que c'est dans notre vie, dans notre état de vie, que Dieu nous appelle à la sainteté. À nous de vouloir et de désirer cette sainteté comme Carlo l'a voulu. C'est un superbe et émouvant témoignage que nous livre Antonia Acuti sur son fils. En conclusion, puisque nous sommes à Lourdes, je voudrais vous lire ce qu'elle raconte sur le passage de Carlo à Lourdes en 2005. Carlo, son père, sa mère et sa grand-mère viennent à Lourdes. Ils sont accompagnés de leur petit chien, Bricciola, que la grand-mère cache dans son sac, car les chiens, excepté les chiens guides d'aveugles bien entendu, ne sont pas autorisés à entrer dans le sanctuaire. Et Antonia nous raconte... Grand-mère Luana transportait le chien dans son sac pour que personne ne remarque sa présence. Ce sac, qui aurait pu être celui de Mary Poppins, nous permit de visiter divers lieux sans être importunés. Bricciola eut également le privilège d'entrer dans la grotte de Lourdes, et je suis sûr que l'eau miraculeuse que nous lui avons fait boire contribua grandement à la calmer. Lorsque Carlo arriva à la grotte de Massabielle, il renouvela son vœu à Marie d'être toujours fidèle à la récitation quotidienne du Saint-Rosaire et il se consacra à son cœur immaculé. Après avoir bu l'eau de la source, il s'absorba dans la prière pendant plus d'une heure. Nous fûmes tous frappés par les longues rangées de bougies sur les côtés de la grotte, qui dans le crépuscule du soir brillaient et illuminaient les environs, créant une atmosphère surréaliste. Penser que chacune de ces bougies racontait l'histoire d'une personne, ses désirs secrets, ses espoirs, ses angoisses les plus profondes, était vraiment émouvant. Combien de douleurs, mais aussi combien de foi rayonnait de cet endroit. Nous aussi, nous avons allumé nos bougies. Le lendemain, nous avons visité les lieux de Bernadette, surtout le moulin de Bolly, la pauvre maison où elle naquit, elle qui, dans son enfance, fut affligée de terribles crises d'asthme, car elle vivait dans un environnement malsain, même s'il était serein et plein d'amour. Grâce aux apparitions de Lourdes, Carlo comprit et fit sien l'appel de la Vierge à la pénitence et au sacrifice. Il prit l'habitude de raconter l'histoire de Bernadette et de ses expériences à la grotte de Massabielle pour inviter tout le monde à suivre les recommandations de la Vierge Immaculée. La figure de Bernadette, cette adolescente analphabète et fille du peuple, choisie par le ciel pour sa grande simplicité et son humilité, impressionna beaucoup Carlo et contribua certainement à sa croissance spirituelle. Du 11 février au 16 juillet 1858, la Vierge Marie s'est manifestée 18 fois à Bernadette, qui avait 14 ans. Elle dit avoir vu une dame vêtue de blanc, portant un voile blanc et une ceinture bleue, une rose jaune à chaque pied. Parmi les messages que la Vierge lui avait donnés, il y avait la promesse qu'elle ne serait pas heureuse dans ce monde, mais dans le suivant. Elle l'exhortait à mener une vie de sacrifice et de prière, lui recommandant tout particulièrement de prier le Saint-Rosaire. Trois fois, elle lui avait dit « pénitence, pénitence, pénitence », l'invitant à manger de l'herbe et à creuser un trou avec ses mains, d'où sortirait l'eau miraculeuse grâce à laquelle il y eut et il y a encore tant de guérisons et de conversions. On voit là que Lourdes a marqué Carlo et sa famille. Et nous pouvons d'ailleurs noter que Antonia Acutis va revenir à Lourdes la semaine prochaine. Le jeudi 2 octobre, elle donnera une conférence à 20h30 à l'église paroissiale de Lourdes. Je ne peux que vous recommander le livre d'Antonia Acutis pour découvrir ce jeune saint et découvrir comment Dieu nous appelle tous à la sainteté dans notre état de vie. Le secret de mon fils Carlo Acutis, écrit par Antonia Salzano Acutis, paru aux éditions Artage en 2022, est disponible à la librairie de la Grotte et dans toutes les librairies.
Voilà pour cette chronique littéraire de Nicolas Dargegen, responsable du service archives et patrimoine au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et puis, n'oubliez pas donc cette invitation qui vous est faite, si vous désirez en savoir un petit peu plus, sur ce saint de ce 21e siècle, donc avec sa mère qui viendra donc témoigner à l'église paroissiale de Lourdes jeudi prochain. Dans quelques instants, le rendez-vous de l'information avec le journal de la région en compagnie de Éric Leclerc.
Le mot d'excuses inventées, tu restes seul à écouter des chansons tristes. Pour chasser ta mélancolie, il y a des notes d'espoir dans ton lit, dans la voix du chanteur qui gronde. Toi, tu cherches ta place dans ce monde. Ta place dans ce monde. Ta place dans ce monde. Tu dis qu'on vit une drôle d'époque et combien prennent des médocs pour s'endormir. Tu sais qu'ailleurs il pleut des bombes, qu'il en faudra des colombes pour s'en sortir. Toujours allongé dans ton plume, tu presses le bouton du volume pour que les émotions t'inondent. Et tu cherches ta place dans ce monde. Ta place dans ce monde. Ta place dans ce monde. Tu rêves d'un grand amour à vivre. Pourquoi pas écrire un livre et voyager. Jamais faire partie du troupeau et puis planter le drapeau de la liberté. Entre tous ceux qui réussissent et sur les réseaux le brandissent, tu doutes de toi chaque seconde. Mais tu as ta place dans ce monde. 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 Comme toi, pendant que danse la ville, je me demande si je suis pile à la bonne place. Au fond, je crois qu'on est des millions à se poser la question devant la glace. Sur le parking des gens heureux, il faut parfois tourner un peu pour trouver une place dans la ronde. Et pourvu qu'elle te corresponde, ta place dans ce monde. Ta place dans ce monde qui gronde. Ta place dans ce monde. Ta place dans ce monde. Ta place dans ce monde. Ta place dans ce monde.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non!
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Radio Présence à Pau, 96.
Bonjour, l'État autorise l'implantation d'une unité de fabrication de paracétamol sur le site d'Ariane Group à Toulouse. Le préfet de la région Occitanie vient de délivrer à l'entreprise Ipsofen l'autorisation environnementale permettant l'installation et l'exploitation d'une unité de fabrication de paracétamol selon un procédé innovant. Ce projet s'implantera sur le site d'Ariane Group à Toulouse dans un bâtiment du site construit en 1999 qui était dédié à la production de principes actifs pour l'industrie pharmaceutique et qui n'était plus utilisé. Ce projet stratégique permettra la production de substances pharmaceutiques sur le territoire. L'installation de cette usine relève d'un classement Seveso seuil bas. Journée de mobilisation des agriculteurs aujourd'hui à l'appel de plusieurs syndicats agricoles. Une mobilisation pour dire non aux incohérences et concurrences déloyales que subissent les producteurs, aux accords commerciaux qui menacent les standards et les filières, au Mercosur où l'agriculture est la variable d'ajustement. Des actions sont prévues dans la région Haute-Garonne avec des points de ralliement, de convois à Merville, Verfeil, Capins et Montsonnès. En Aveyron, les agriculteurs se réunissent à Rodez au stade Paul Lignon à l'occasion de la rencontre entre Rodez et Pau avec distribution de tracts. Et puis dans le Tarn-et-Garonne, des contrôles sont effectués dans les grandes surfaces sur l'origine de certains produits. La troisième et dernière phase du Conseil départemental de l'éducation nationale pour la Haute-Garonne s'est tenue il y a quelques jours, marquant la fin du processus de la carte scolaire pour la rentrée 2025. Cette instance a pour but de valider les ouvertures et fermetures de classes dans le premier degré. 6 classes vont devoir fermer sur le département, 2 à Toulouse, 1 à Tournefeuille, Balma, Livignac et Auvernais. Des fermetures dénoncées par FSU, SNU, IPP 31. Du côté des ouvertures, on compte 8 classes, 2 à Toulouse, 1 à L'Union, Saint-Alban, Revel et Aune, Tournefeuille et La Serre, Pradère. Création d'un observatoire de la qualité de l'air sur le plateau de Lannemezan, l'évolution de la zone industrielle de Peyrehitte avec l'installation prévue de nouveaux acteurs économiques a suscité de nombreuses questions des riverains sur les polluants issus de ces nouvelles activités et plus largement sur la qualité de l'air. Une commission de suivi du site a acté la création d'un observatoire de la qualité de l'air sur le plateau de Lannemezan. L'État et les acteurs locaux ont sollicité Atmo Occitanie en tant qu'observatoire indépendant agréé pour surveiller la qualité de l'air. Ce suivi a pour objectif notamment d'évaluer si les concentrations de polluants suivies dépassent localement les valeurs limites pour la protection de la santé ou de l'environnement et d'évaluer plus précisément la contribution des différentes sources de polluants. En mars dernier, le pont Valentré à Cahors avait été sélectionné en tant que monument emblématique du patrimoine de la région Occitanie parmi les 18 biens qui bénéficieraient des gains de l'édition 2025 du Super Loto du patrimoine. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, un chèque de 500 000 euros a été remis par la mission Berne et la Française des Jeux au bénéfice du projet de restauration du pont Valentré. La somme sera ajoutée à la collecte en ligne portée par la Fondation du patrimoine et participera au financement de la campagne de travaux de restauration de ce trésor patrimonial cadurcien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.
Merci Eric Leclerc pour ce journal. Le prochain rendez-vous de l'information à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Dans les médias, nous retrouvons la chronique solidaire comme tous les vendredis. Une chronique qui nous est proposée par Anne Deslois.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'invité de notre chronique Solidairement Vôtre est Adeline Tesserinck. Adeline, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai invité pour cette chronique parce que vous avez été, il y a quelques années, alors ça remonte peut-être au début des années 2000, 2004, 2008, volontaire international en Tanzanie. Alors, vous allez nous raconter ce projet, ce que vous avez vécu, cette mission qui vous a été confiée là-bas. Auprès de réfugiés. Alors déjà, dans quel cadre vous êtes partie, Adeline, en Tanzanie ?
Alors, je suis partie dans le cadre de volontaire international. J'étais coopérant avec la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, qui est donc une organisation qui envoie des volontaires un peu partout dans l'international, avec des partenaires locaux.
Donc, qui dit volontaire, dit bénévolat aussi ? Vous étiez où pour travailler pour...
C'était du bénévolat valorisé.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on avait une petite allouance, mais pas un salaire. C'était juste voilà, de quoi avoir... On avait 200 euros par mois pour permettre d'économiser et de pouvoir se payer un voyage retour si on avait besoin.
Voilà.
Et on était nourris et logés là-bas.
Et quand vous êtes parti donc en Tanzanie, c'était parce qu'on vous confiait donc une mission dans un camp de réfugiés. Dans quel contexte cela s'est vécu ?
Alors la Tanzanie, c'est donc un pays d'Afrique de l'Est qui est limitrophe avec le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la RDC, République démocratique du Congo. Et donc sur ce camp de réfugiés, moi je travaillais avec un des partenaires de la DCC qui s'appelle les GRS, Jesuit Refugee Services. Et donc on était sur un camp de réfugiés burundais qui a été créé bien une trentaine d'années avant, suite au premier génocide qui a eu lieu dans les années 50 au Burundi. Voilà.
Alors, c'est des camps qui représentent combien de personnes ? On ne se rend pas bien compte, mais on a peut-être chacun vu déjà des camps à la télévision. Mais il y a des milliers de personnes ?
Il y a des milliers de personnes. Moi, le camp sur lequel j'étais, ça faisait déjà une vingtaine d'années qu'il existait. Et je suis arrivée, c'était deux camps collés, du collé A et du collé B. Et sur chacun des camps, il y avait à peu près 90 000 personnes.
Alors, en fait, dans ces camps, il y a différents organismes qui s'occupent des réfugiés.
Exactement. En fait, ces camps, c'est des camps qui ont été au début montés par les Nations Unies, par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, et dans lesquels sont invités donc UNICEF, des ONG locales. Voilà, il y avait la Red Cross tanzanienne, il y avait le Programme Alimentaire Mondial, et nous, il y avait les Jésuites, les Refugee Services, qui participons à la vie du camp, puisqu'en fait, sur les camps de réfugiés, les réfugiés n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas d'activité autre que les écoles qui sont mises en place par UNICEF ou par, entre autres, là, les Jésuites Refugee Services. Et pour le coup, c'est ces organismes-là qui font vivre les 150 000 personnes, qui les font vivre au quotidien.
Et ces réfugiés, ce sont des familles, ce sont des célibataires, c'est des personnes jeunes, des personnes âgées. Quel profil, au moins sur le camp que vous avez, dans lequel vous avez habité ?
Alors, ce sont des personnes. En fait, c'est des familles. C'est des gens comme nous, enfin comme vous et moi. On est. Il y a des grands-parents qui viennent avec leur famille. Il y a des personnes seules qui sont venues. Il y en a qui étaient sur ce camp depuis très longtemps. Il y a même des enfants qui avaient maintenant, quand moi j'y étais, qui avaient 25-30 ans, qui n'avaient jamais connu leur pays parce que leurs parents étaient en situation de réfugiés depuis longtemps, en fait. Voilà. Et donc ils ont vécu que. Et ils n'ont pas le droit de sortir du camp. Ils n'ont pas le droit de travailler en dehors du camp. Ils ont en Tanzanie.
Alors, quelle a été votre mission précise dans ce camp ? Déjà, quelle langue vous parliez ? En anglais ?
Alors, je parlais en anglais et en swahili, qui est la langue locale de Tanzanie, voilà. Et donc, je parlais sur le camp lui-même, je parlais en swahili avec les employés des organisations, et je parlais français avec les réfugiés burundais, puisqu'ils ont cette avantage
francophone.
D'être francophone. Et je parlais anglais avec les grosses ONG comme le HCR, le Haut Commissariat des Réfugiés ou UNICEF.
Voilà, alors, je parlais trois langues. Vos missions. Racontez-nous peut-être même une journée type.
Alors, ma mission, c'était, donc moi je suis éducatrice de métier et donc ma mission, les jésuites avaient sur les deux camps, ils avaient monté des unités spécialisées pour enfants porteurs de handicap parce que dans cette culture-là, le handicap était souvent caché, donc l'idée c'était de pouvoir les accueillir, s'occuper des enfants et de former des réfugiés à s'occuper des enfants pour que quand ils reviennent chez eux, ils soient en capacité de proposer ça à un retour à l'emploi. Et donc moi, ma mission, c'était donc j'ai pris la suite d'autres volontaires qui étaient là avant moi, et c'était de former les éducateurs. Donc mon quotidien, c'était le matin, je partais du logement que j'avais en Tanzanie, et je partais sur le camp de réfugiés, où là, j'allais avec les éducateurs mettre des animations, des ateliers en place, faire des points de bilan avec eux. Voilà, je m'assurais qu'ils aient tout ce qu'ils avaient besoin d'avoir pour s'occuper des enfants porteurs de handicap. J'avais aussi la part, il y avait des enfants qui souffraient de malnutrition, donc c'était aussi les accompagner au dispensaire pour qu'ils soient pris en charge, pour qu'on puisse, pour qu'ils puissent continuer sa journée correctement.
Et qu'est-ce que cette expérience, donc en Tanzanie comme volontaire international, a approfondi en vous ? Il y a peut-être des qualités maintenant que vous mettez à profit dans votre vie quotidienne ici en France, qui quelque part se sont révélées lors de cette expérience de coopération ?
Alors ma première, pour moi, c'est la foi en l'autre, la présence. Alors pour moi, ça a vraiment été la présence du Christ, de voir en chacun d'entre eux. De voir qu'ils vivaient dans des situations extrêmement compliquées, et pourtant avec tant de foi et de sourire et de joie, et de me dire, en fait, voilà, ne pas se faire des montagnes de ce qu'il y a autour de soi et d'avancer petit à petit avec les richesses qu'il y a et essayer de faire sortir ces richesses des gens et les faire se mettre ensemble pour avancer.
Et voilà. Une deuxième peut-être valeur que vous retenez de vos années là-bas ?
L'ouverture. Oui. Voilà, être capable d'essayer de comprendre des choses qui ne font pas partie de ma culture, mais de faire en sorte qu'elles soient tout à fait légitimes autant que ma culture. Donc c'est l'ouverture, ouais.
J'imagine que cette expérience, donc combien de 2 ans
3 ans.
3 ans en Tanzanie, ben, a fait en sorte que vous avez fait certains choix quand vous êtes rentrée en France. Peut-être que vous avez, vous dites, vous êtes éducatrice spécialisée. Est-ce qu'il y a un domaine de prédilection pour lequel maintenant vous travaillez peut-être, qui a pris ses racines aussi avec cette expérience à l'étranger?
Alors, quand je suis revenue en France, j'ai de suite cherché un travail dans mon corps de métier. Donc, j'ai été éducatrice dans une maison d'enfants à caractère social. Mais en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais besoin de mettre mes valeurs au cœur de mon action. Et donc, j'ai démissionné et j'ai trouvé un travail au Secours catholique. Et donc là, j'étais animatrice de réseau. Et pour le coup, je pouvais continuer à accompagner des équipes de bénévoles, à mettre en place des projets avec eux à destination de personnes en difficulté ou de personnes qui en avaient la nécessité, tout en mettant ma foi au service. Voilà, tout en me mettant au service aussi de ma foi. Et pour moi, c'était essentiel.
Est-ce que vous diriez que votre foi s'est affermie au contact d'une autre culture et d'une pratique religieuse peut-être différente de celle que vous connaissiez ? Parce que peut-être que dans le camp avec les réfugiés, vous avez pu exprimer aussi votre foi chrétienne, mais de toute façon peut-être différente de ce que vous connaissiez.
Ah, complètement différente. En Tanzanie, j'ai pu découvrir un partage de foi collectif et non pas individuel. Et pour le coup, c'est ça aussi qui m'a motivée à me dire qu'il faut que je le mette au service, qu'il faut que je le montre, qu'il faut que je le partage et que c'est pas quelque chose que je dois garder pour moi. Et que vraiment, moi j'ai découvert là que le Christ était partout dans le monde et pas seulement en France. Que même si je le savais, mais de l'avoir vécu, de l'avoir transpiré, ça m'a permis d'en prendre conscience et de le faire vivre après.
Voilà, donc vraiment la dimension universelle de la foi chrétienne.
Voilà, exactement.
Alors Adeline, notre chronique s'intitule « Solidairement vôtre ». Alors si je vous dis solidaire, solidarité, qu'est-ce que ça évoque vraiment en vous ?
Alors moi, la solidarité, ça évoque le fait que chaque peuple peut se mettre au service les uns des autres et avancer ensemble. Et qu'on a chacun des qualités qui sont différentes, mais que si elles sont mises ensemble, on peut arriver à avancer et œuvrer pour quelque chose de plus beau.
L'entraide, c'est beau. Alors merci Adeline pour votre témoignage, sous le signe vraiment de la fraternité et de la solidarité internationale. Un grand merci et peut-être à une prochaine fois sur les ondes de Radio Présence.
Merci beaucoup Anne.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Et le rendez-vous est pris puisque d'ores et déjà je vous annonce la suite de cette interview dès vendredi prochain dans le Présence Midi. On se retrouve dans quelques instants avec Alain Fournier qui a écrit sur notre belle Occitanie. À tout de suite.
De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín.
acuerdo voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mayarí.
Présence dans la cité mariale 96.
Du Pays basque aux rivages de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les sites fameux des Pyrénées. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez. Aujourd'hui, avec Alain Fournier. Henri Alban Fournier, dit Alain Fournier, est l'auteur du Grand Maulne, 1913, roman qui connut un succès fulgurant et demeure l'une des œuvres françaises la plus traduite et lue dans le monde. Il effectua plusieurs périodes militaires à Mirande, dans le Gers, comme sous-lieutenant au 88e régiment d'infanterie. Dans sa correspondance, il a évoqué à plusieurs reprises ses séjours gersois, en 1909, 1911, 1913. Notamment le premier au cours duquel il découvre les Pyrénées et visite Lourdes. Alain Fournier a disparu près de Verdun avec une vingtaine de camarades dès les premières semaines de la monstrueuse boucherie de 1914. Conduite par un supérieur inflexible et borné, « J'ai un capitaine vachard, baderne et ennuyeux à pleurer », avait-il écrit quelques semaines avant sa disparition. La petite escouade dont il faisait partie s'était en fait engagée par erreur derrière les lignes allemandes et a été massacrée. On a retrouvé le corps de l'écrivain qu'en 1991, près de Saint-Rémy-la-Calonne. Dans ses extraits de lettres à sa famille du printemps 1909, il évoque sa nouvelle affectation, Mirande, et l'on perçoit son impatience de découvrir les Pyrénées. Mirande, le 10 avril 1909. Mes chers, je vois par ma fenêtre un petit prunier tout fleuri. Hier, il faisait grand vent et poussière. Aujourd'hui, c'est un soleil que le vent ne fraîchit pas. Je me crois à la fin avril. La chapelle même n'est pas plus calme que ce bourg, que ce haut de rue où donnent mes fenêtres. Je n'entends, comme au soir d'été, que des voix d'enfants, très loin. Parfois un train, un pas tranquille sur la route. C'est délicieux et triste. Je me sens dans un isolement terrible. Une fois passé Auch, j'ai commencé à regarder du train si on n'apercevait pas les montagnes. Nous passions entre des collines dans de petites vallées où nous montions lentement des rampes. Et j'ai enfin découvert, tout à coup, très loin dans la nuée blanche, mais visible à cause de l'éclat plus blanc de la neige, les grands pics cassés. C'est ainsi qu'on les voit de Mirande, de la gare, de l'hôtel, du tennis. On est hanté par le désir de s'en approcher. À bicyclette, on veut toujours monter une côte, encore et encore une, dans l'espoir de les découvrir. Parfois, on en découvre des centaines de kilomètres. Il y a des jours, paraît-il, où le pic du midi paraît être à quelques heures. Nous avons été accueillis par les officiers d'ici avec une cordialité et une simplicité exquise. Nous prenions nos repas avec les lieutenants célibataires. Il y en a d'infiniment drôles. Mais leur vie est la plus morne, la plus inutile qui soit. Je me demande comment ils y résistent. Je suis tombée dans la compagnie rêvée. Pour vous donner une idée du capitaine, ce gros bonhomme a été trouver mon ordonnance au réfectoire pour lui faire des recommandations spéciales sur la façon de se comporter avec mon propriétaire. On n'est pas plus paternel. Pour compléter son approche dans les Pyrénées, quelques mois plus tard, Alain Fournier écrit ces quelques lignes. Mirande, le 17 juin 1909. Une seule chose me plaît ici, c'est ma solitude, dans cet appartement qui donne sur des champs, des jardins et la route de Tarbes. Les bœufs aux pattes obliques, étayées l'une contre l'autre, emmènent au pas, dans de grandes charrettes, les familles de paysans. C'est le grand calme antique. De mon bureau, je vois à l'horizon s'accumuler les lourds nuages blancs. Il y a plein ma chambre de roses cueillies dans les haies. Voici deux extraits de lettres de Alain Fournier à sa famille. À travers les mots, les regards, inspirés par nos belles montagnes pyrénéennes, nous avons pu apprécier le talent de Alain Fournier. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée, intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées », inspirant tous mes récits.
Présence, place du Capitole, 97.9.
Every night to finally roam and invite newcomers to play with us. For many years we've been all alone. We're forced to be still and play the same songs we've known since that day. And a bastard took our life away. Now we're stuck here to decay. Please let us get in, don't lock us away. We're not like what you're thinking. We are poor little souls who have lost all control. And we're forced here to take that road. Get to see you another night. You should have looked for another job. You should have said to this place goodbye. It's like there's so much more. Maybe you've been in this place before. We remember a face like yours. You seem acquainted with those doors. Please let us get in. Don't lock us away. We're not like what you're thinking. We are poor little souls who have lost all control. And we're forced to take that road. Our friend, but just be second to friend. After all, you only got 5 nights in Freddy's. Is this where you wanna be? I just don't.
Radio Présence dans le Luchonnet, 94 FM. Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
C'est la première nomination de Léon XIV à la tête d'un dicastère de la curée romaine, celle du préfet du dicastère pour les